Aujourd'hui, il sera question à Rencontre spirituelle de Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, qui est beaucoup mieux connu sous le nom tout simplement de curé d'Ars. Sa fête est le 4 août et je pensais le célébrer le 4 mars puisque au mois d'août, je serai en vacances. Et je tiens à parler du curé d'Ars. Je vous en avais parlé il y a 2 ans. Je vous en parlerai différemment aujourd'hui. C'est vraiment un prêtre extraordinaire. C'est le patron des curés de paroisse, de nos prêtres diocésains en particulier, et aussi des prêtres religieux qui s'occupent de paroisse. Et je leur dédie donc cette émission qui est un peu particulière et une façon de les remercier pour tout le travail, souvent ingrat, qu'ils accomplissent. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Jean-Marie Baptiste Vianney, que l'on a surnommé le bon père, avait un cœur, dit-on, qui était comme un foyer de tendresse et de miséricorde. C'est la réputation qu'il avait. Mais il n'a pas toujours eu cette réputation-là. C'était un grand amoureux qui était rempli de fougue. Qui est à l'instar de son saint patron Saint Jean, le meilleur ami de Jésus, le témoin, comme on dit, de Jésus-Christ. Il était comme lui, quelqu'un qui nous invite à suivre Jésus-Christ dans toutes ses exigences, avec la confiance d'un petit enfant qui se sait éperdument aimé par son père. Il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant qui se sait perdument aimé par son père. Eh bien, c'est notre cas, nous devrions être comme ça jusqu'au tréfonds de notre être. Souvent, le curé d'Ars pourrait sembler rempli de contradictions quand on lit les nombreuses vies, j'en ai je ne sais combien, qui ont été écrites, en particulier à celle très ancienne du chanoine Trochu, Francis Trochu, le curé d'Ars, mais il y en a d'autres sont tellement nombreuses qu'on peut plus le dire. Je vous en signale quelques-unes. Daniel Pézeril, Lavarande, Bernard Brault, et Michel Carouge, n'est-ce pas? Et puis Monseigneur Fourré aussi, l'évêque du diocèse où est Ars. Et alors donc, c'est rempli de contradictions sa vie, mais à travers toute sa vie, nous découvrons un fil d'or, un fil conducteur qui nous amène à la parfaite cohérence du royaume. Qu'est-ce que c'est que cette parfaite cohérence du royaume? Elle est dite par Saint Paul, puis elle est répétée par Saint Paul bien des fois, c'est que la sagesse est folie pour les hommes. La sagesse des chrétiens, c'est une folie pour les hommes. La sagesse des saints, c'est une folie pour les hommes. Et c'est ça la vie du curé d'Ars. L'enfance de Jean-Marie Baptiste Vianney est marquée par la Révolution française. Il est né le 4 mai 1786, juste à la veille de la Révolution, qui a commencé 3 ans plus tard. Il a vu dans son village de Dardilly, près de Lyon, dans le sud de la France, donc comment on hébergeait, dans la ferme de ses parents, là, dans la clandestinité, les prêtres réfractaires, c'est-à-dire les prêtres qui avaient refusé de signer cette espèce de contrat avec le gouvernement révolutionnaire. C'était la constitution civile du clergé, comme on disait. Et alors donc, il n'a eu, lui, ni froid ni faim, mais il est issu d'un milieu plutôt rude. Et puis, c'est pas dans un monde où on s'écoute. Hein. C'est exigeant, c'est un milieu exigeant, pauvre. Dès l'âge de 7 ans, d'ailleurs, on le met à garder des bêtes. Et on voit de quelle façon son caractère va se pétrir, on peut dire. D'abord, il a le goût de la solitude, de la vie de prière. Puis il a une volonté qui se développe en lui, qui est assez âpre. Assez particulière. Si tout ça s'est fait dans un contexte de clandestinité, c'est la Révolution. Puis d'un véritable combat spirituel où s'il faut défendre sa foi. Et puis, il y a la personne de sa maman, de sa mère. Quand il parle de sa vie, il va dire « Après Dieu, c'est l'ouvrage de ma mère ». Une autre personne qui compte beaucoup dans sa vie, et c'est comme ça pour une grande partie des chrétiens, c'est un prêtre. Un bon prêtre, l'abbé Ballet, qui est un prêtre réfractaire justement, qui n'a pas signé, qui est donc poursuivi par la gendarmerie, et qu'il rencontre à 18 ans la paroisse voisine d'Écully, c'est tout près de chez lui, puis il se fait aussitôt le disciple de ce prêtre pour devenir bientôt comme son fils. L'abbé Ballet, ça s'appelle B-A-2-L-E-Y, le conduit au sacerdoce. Comment? En lui enseignant par sa conduite de prêtre et ses paroles de prêtre, en l'accompagnant aussi, en l'encourageant dans toutes les aventures et les péripéties de ses études qui deviennent un véritable calvaire parce que le résultat de ses efforts à ce futur curé d'Ars, des efforts pourtant héroïques, c'est à peu près nul. Il n'absorbe pas grand-chose, il a de la difficulté à étudier puis à apprendre. Mais pourtant, il sera ordonné, quelle n'est pas sa joie. Quand à 29 ans finalement, il est, je dis bien, consacré prêtre. Le 13 août 1815, dans la cathédrale de Grenoble, au pied des Alpes. Une ordination pour lui tout seul. Il est nommé immédiatement à Écully, le village, là, en compagnie de son père spirituel, l'abbé Ballet, qui est curé. Et son curé va être son premier pénitent, parce que le curé d'Ars va passer sa vie, une grande partie de sa vie, dans le confessionnal, à confesser les gens, recevoir les confidences des gens, les plus intimes. Et l'abbé Ballet se confesse donc à lui. Mais des milliers, des centaines de milliers de gens vont suivre pour se confesser à lui tout au cours de sa vie. Commencer à 1 h du matin à confesser. 1 h du matin. Alors les événements extérieurs se chargent de transformer son âme et le 9 février 1819, il arrive au petit village d'Ars qui est complètement déchristianisé et à propos duquel on va lui déclarer il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans ce village. Alors vous en mettrez. Comme quoi on se préoccupait de l'amour du bon Dieu dans ce temps-là. Les gens pensent qu'on pense toujours que le Dieu était vengeur. J'entends toutes sortes de choses de ces jours-ci à la télévision. Les gens de mon âge qui disent « Oh, c'est effrayant, on ne nous parlait jamais de l'amour du bon Dieu. » Comment se fait-il qu'en 1819, on lui dit, les autorités lui disent « Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans ce village, vous en mettrez. » Alors face à sa tendance à un certain rigorisme, il faut le dire, au début de sa vie. À ses excentricités aussi. Mais il est maintes fois calomnié, il est raillé, il est ridiculisé. Ça peut arriver, ça, des prêtres qui sont trop enthousiastes, peut-être. Alors, on comprend pas les allées et venues nocturnes du curé d'Ars, du presbytère à l'église, qui prie la nuit, il va confesser. Il ne lui faut pas moins de 8 ans. Pour que faire disparaître à peu près le dimanche le travail qui se faisait, on n'observait pas le dimanche. Ces fameux sermons attirent des foules. Et en même temps, bien, parce qu'ils s'acharnent à démasquer le péché, ils provoquent bien des réactions. Un prêtre qui veut démasquer le péché n'est pas très bien reçu en général. Sa prédication au curé d'Ars est concrète. Et puis, il reprend à peu près tout ce qui se fait dans le village, dans ses moindres aspects. Il néglige souvent les nuances, les ménagements. Il est trop exigeant. Au risque même d'arriver à des abus puis des erreurs théologiques, disent les meilleurs auteurs. Alors, il se voit entouré d'une quantité de protestations, tant de la part des laïcs que du clergé. Il faudrait parler aussi de ses tourments intérieurs, car si le curé d'Ars, dans son intransigeance, a l'air d'être doté d'un fort tempérament, il connaît, comme à peu près personne d'autre, ses propres limites, ses faiblesses. Il a toutes les peines du monde à préparer ses sermons. Hein. Il passe un temps incalculable à composer son texte, qui est fait de petits bouts de papier, d'une véritable mosaïque ou un, un casse-tête de phrases découpées auprès des auteurs qu'il connaît. Puis il rassemble ça, il se défie tellement de lui-même qu'il se perd en toutes sortes de scrupules interminables. Il est hanté par son ignorance théologique, que ses collègues prêtres, certains d'entre eux en tous les cas, ne manquent pas de le lui rappeler. Mais quel est le secret qui anime en profondeur ce saint curé d'Ars? Qu'est-ce qui le motive et le conduit à ce comportement si tranché, si extrême, sous les traits parfois un peu rustiques et derrière un certain folklore, d'une certaine fantaisie, là? Le curé Vianney cache une grande sensibilité. Une sensibilité humaine, une sensibilité spirituelle. Il se voit, ainsi que son entourage, avec une si grande lucidité que ça ne lui permet aucune compromission. Il est tellement lucide. Avec un cœur aussi passionné, il est exposé tout au long de son existence à des dépressions brusques aussi. Il est happé tout à coup par une sorte de vide, puis il subit de terribles angoisses. Il n'est pas encore un modèle pour le clergé, mais ça va venir. Durant les premières années de sa vie à Ars, qui est un trou de campagne sans religion, dit-il, il est pris par ce marasme du désœuvrement, il n'y a presque personne à l'église. Il déclare d'ailleurs, l'air mou de ce pays m'inquiète. J'ai peur de me damner en ne travaillant pas assez. Ça n'est pas facile, je me souviens de prêtres en France, quand j'étais là en vacances, dans des villages, nous étions à la messe 9 personnes. 3-4 gamines qui riaient, 2-3 vieillards qui n'entendaient presque rien, un couple qui avait un peu d'allure et moi, et le prêtre qui parlait comme s'il y avait la foule, qui était sincère et vrai. C'est incroyable, le courage de ces prêtres. Alors il se fait une amie, une de ses grandes fidèles, qui s'appelle Catherine Lassagne, dont il faudrait que je vous parle un jour. Elle précise au cours du procès de canonisation, « Je me rappelle qu'il y avait à peine 2 ans qu'il était à Ars, qu'il pensait déjà s'en aller. Et dans l'isolement des premiers temps de son ministère à Ars, il a vu surgir les pires tentations, ce qu'il a appelé lui-même l'épreuve du désespoir. » C'est ce qui attend bien des jeunes prêtres qui ont 30-35 ans, l'épreuve du désespoir. Même ici à Montréal, faut prier pour nos prêtres. Et le mot ici, peut-être surprenant dans sa propre bouche, parce que dire l'épreuve du désespoir, c'est lui qui dit ça. Il y a de l'humour aussi, quand même, qui ne fait pas défaut. Il y a cette distance que la sagesse de Dieu au fil des temps lui faisait prendre par rapport aux choses aussi. Ça lui engendre un peu de désespoir. Et pourtant, ce désespoir correspond à un pli caractéristique de son destin, c'est curieux, hein? Mais une fois transfiguré, ce désespoir va devenir à la gloire de Dieu et le curé d'Ars va se noyer dans l'amour. Et d'où vient cette hantise de ce damné aussi qu'il a? Il a demandé à Dieu, non sans une certaine naïveté mélangée de témérité, de présomption, cette grâce terrible d'avoir une totale connaissance de sa misère et sa prière a été exaucée. Mais l'expérience a été terrible, et voilà ce qu'il en dit lui-même. Il dit, « Je fus tellement effrayé de connaître ma misère que j'ai imploré aussitôt la grâce de l'oublier, et Dieu m'a entendu, mais il m'a laissé assez de lumière sur mon néant pour me faire comprendre que je ne suis capable de rien. » Il ne s'était pas douté de son audace, mais de cette révélation du gouffre qui l'habite, il lui demeure une grande, grande vulnérabilité. Puis la connaissance intime d'être un pécheur pardonné. Il ne cesse de gémir sur sa pauvre âme, ses pauvres péchés, puis se déprécie avec acharnement, puis il déclare, « Le bon Dieu m'a choisi pour être l'instrument des grâces qu'il fait aux pécheurs, parce que je suis le plus ignorant et le plus misérable de tous les prêtres. » Il confie à ses pénitents, « Je suis bien plus coupable que vous. Ne craignez pas de vous accuser. » Alors nous revenons au curé d'Ars, dont ce sera la fête le 4 août prochain. Je le célèbre un peu à l'avance, en plein carême. Le curé d'Ars prêche bien souvent, très souvent, notamment ses débuts. Puis il prêche étrangement dans un vrai désert spirituel. Il reçoit même des persécutions à la suite de ses sermons. Il doit faire face à toutes sortes d'obstacles, car la vérité très dure qu'il veut enseigner n'est mal reçue. De 1823 à 1825, pendant 3 années, qui ont l'air pour lui de 30, c'est ce qu'il a dit, va se développer un phénomène extraordinaire. Ça va être un apostolat qui s'affirme à mesure que la déconsidération s'abat cruellement sur lui. Ce qui se passe à Ars est avant tout l'œuvre de Dieu. Ça dépasse tout le monde, à commencer par le curé d'Ars lui-même. Il est harcelé par une tentation continuelle. Et qu'est-ce que c'est que cette tentation? C'est celle de la fuite, fuir. C'est un des graves dangers qui nous poursuit dans l'Église, de se dire « Ah, ça vaut pas la peine, je fuis. » Très dangereux. Aurait-on fui quand l'Église était soumise au pape Alexandre VI, pape étrange, abominable, alors que bien des cardinaux vivaient dans des circonstances qu'on n'ose même pas raconter, et que l'Église avait l'air bien décadente, il y avait la vente des indulgences. Il ne faut pas quitter, il faut réformer de l'intérieur. Et ainsi dans une paroisse. Et c'est ainsi que le 13 septembre 1843, à 57 ans, ce pauvre curé d'Ars en est arrivé à quitter Ars en pleine nuit pour aller, après 7 heures de marche, à Dardilly, chez son frère. Et quand il revient à la demande de tous ses paroissiens qui l'aiment quand même, il s'exclame dans une tendresse qui vient de son cœur de père. C'était donc tout perdu? Eh bien, tout est retrouvé. Alors, mes enfants, je ne vous quitterai plus. Je ne vous quitterai plus. Et là, il s'attache à eux, comme à ses enfants. Et il fait le tour de la place à Ars, tandis que les cloches sonnent à grande volée. Mais c'est pas la dernière de ces fameuses fugues. Il va y succomber quelques autres fois. En particulier, il rêverait d'entrer à la trappe. Mais si son rêve, c'est de gagner des âmes au bon Dieu. Alors pourquoi cette tentation de tout quitter? Il est certain, lui, prêtre, pauvre petit prêtre, peu instruit, il est certain de n'être pas à la hauteur de sa tâche de curé. Il s'imagine qu'il fait beaucoup de mal aux âmes, dont il a la charge, à cause de son incompétence. C'est son scrupule. Il est dévoré par l'unique désir d'expier dans la solitude cette témérité épouvantable qu'il a eue de prétendre au sacerdoce, puis de prendre une responsabilité dans l'Église. Il a des remords d'avoir abusé de la bonté de ses supérieurs, etc., puis d'avoir accepté l'ordination sacerdotale, de s'être consacré comme ça. Il y a un témoin qui déclare, il avait l'intime conviction qu'il n'était bon qu'à tout gâter, qu'il ne savait rien dire ni rien faire à propos, qu'il était pour l'Église un fardeau inutile. Un jour, il ose également confier à son entourage, vous savez, depuis l'âge de 11 ans, je demande à vivre dans la solitude. Alors que le petit village d'Ars rassemble chaque jour une foule de pèlerins qui est toujours de plus en plus nombreux, la foule des pénitents, de ceux qui veulent se confesser, c'est ininterrompu, c'est un véritable cortège. C'est toute une foule hétéroclite, il y a des gens du peuple, il y a des célébrités les plus en vue de l'époque. Mais tout ça ne l'intimide absolument pas. Il dit, en les regardant tous, à quelqu'un auquel il se confie, « Bah, ce sont des corps et des âmes. » Et les plus pauvres viennent nombreux, évidemment, pour mendier à Ars, parce que c'est devenu très propice, ils peuvent se faire un peu d'argent. Il faut au bon curé que être très patient, parce que c'est devenu comme une cour des miracles. Vous savez ce que c'est, il y a des siècles, la cour des miracles. On voit ça dans des films. Ces pauvres gens, les gens estropiés, les gens malheureux, la pauvreté la plus abjecte dans la société. C'est tellement terrible. Alors il ne les rejette pas, lui, bien au contraire. Ils sont tous ses amis, de bons amis, même quand ils lui mentent. C'est un des traits de sa sainteté. Il est très généreux. Il ne demande pas de compte. Il va même une fois prévenir une femme qui a volé 900 francs que les gendarmes la recherchent. Il verse même une pension à une autre pour qu'elle ne vole plus. Et malgré la tentation de quitter le village d'Ars-la-Paroisse, qui le reprend régulièrement, cette tentation-là, il y a son attachement à la paroisse, qui revêt toutes les marques d'une véritable consécration d'un prêtre. Un prêtre qui a épousé sa paroisse. Il s'estime lié, comme dans un immense sacrifice, à son petit village d'Ars, pour lequel il donne tout le sang de son âme. Tout le sang de son âme. En 1815, les voyageurs à Ars sont estimés à 300 ou 400 par jour. C'est du monde, ça. Puis il faut parler à chacun, car chacun veut se confesser. Et la vie de Jean-Marie Baptiste Vianney, le curé d'Ars, c'est un combat continuel. Il s'astreint lui-même à une discipline des plus sévères. Il est dévoré par un désir ardent d'imiter celui, Jésus, qui a donné sa vie sur la croix pour le sauver. Mais son zèle est intempestif. C'est peut-être sa grâce, mais c'est aussi son drame. Et ça tourne parfois à une sorte d'obsession, tant pour lui que pour ses paroissiens. Il n'a pas encore trouvé vraiment son équilibre. Son ascèse et sa vie d'austérité deviennent légendaires, d'ailleurs. Rien n'est de trop pour le bon Dieu. Il ne mange plus que ses fameuses pommes de terre. Hein, on lit ça dans toutes ses vies. Il faisait préparer des pommes de terre au début de la semaine, puis évidemment qu'elles devenaient plus ou moins vertes ou mauves dans la... parce qu'il n'y a pas de frigo. Hein. Alors il ne mange plus que ses fameuses pommes de terre qui durent toute la semaine et son bol de lait. Ce sont des repas qu'il expédie, souvent en ne prenant même pas la peine de s'asseoir. Je pourrais vous parler de son sommeil. 2 ou 3 heures, selon ses propres dires. On connaît son ameublement quand on est allé à Ars, on voit ça. C'est réduit à la plus simple expression. Et bien sûr, il passe le plus clair de son temps confessionnal, que ce soit à Écully ou à Ars. Où il commence, je vous l'ai dit au début, par la confession des femmes à 1 heure du matin, pour ensuite, durant la journée, se laisser littéralement dévorer par ses fidèles, prêt à se dépouiller généreusement auprès de celui qui en a besoin. Il va jusqu'à emprunter de l'argent pour tirer quelqu'un d'embarras. Et dans sa chambre, il s'inflige toutes sortes de traitements très durs pour expier ses propres fautes, dit-il, et celles des âmes dont il a la charge, car... il ne pense qu'à gagner des âmes au bon Dieu, gagner des âmes au bon Dieu, gagner des âmes au bon Dieu, les libérer, c'est sa devise de toute sa vie. Il l'avait déjà dit enfant à sa mère. Puis il y a le grappin. Oui, le grappin, vous connaissez ça, hein, dans la vie du curé d'Ars, c'est ainsi qu'il appelle le prince des ténèbres, autrement dit le diable lui-même, qui bien sûr... n'est pas du tout satisfait des œuvres de conversion puis des miracles qui se font à Ars. Alors notre saint curé, chose étrange, pendant pas moins de 30 ans, 36 ans même, est en but toutes les nuits à des persécutions diaboliques. Vous direz que ça n'a pas de sens. Et pourtant, tellement de témoins, il faut lire les ouvrages sérieux à ce sujet. C'est très curieux. On pouvait entendre un tintamarre nocturne impressionnant dans la chambre ou dans le presbytère, au dire de tous ces témoins. Et le démon en est arrivé aux actes extérieurs qu'après avoir été vaincu, là, dans un combat intérieur extrême. Et ce sont les paysans qui, les premiers, ont suspecté une intervention du malin, après avoir cru au début à des actes de malveillance. Puis ils ont gardé les portes du presbytère, et je vous raconterai tout à l'heure. Donc, le curé d'Ars avait, chose étrange... dans sa vie, des manifestations, des persécutions diaboliques. On peut se moquer de ça, on peut en rire, mais pourtant les preuves sont innombrables. Je vous disais que le démon en était arrivé à ses actes extérieurs après avoir été vaincu dans un combat intérieur extrême avec cet homme de Dieu. Et ce sont les paysans du village d'Ars, dans le sud de la France, qui les premiers... ont suspecté une intervention du malin, c'est-à-dire, comme on dit, hein, à la fin du Notre Père, libérez-nous du malin, du mal. Parce qu'ils ont cru, au début, ces gens-là, à des actes de malveillance. Ils ont gardé les portes du presbytère, ils ont surveillé pour voir si c'était pas d'autres personnes qui faisaient du bruit comme ça. Et le 15 septembre 1825, c'est ce que nous rapporte Catherine Lassagne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voici le texte. « Monsieur le curé nous a demandé d'élargir la paillasse parce que le démon le jetait hors de son lit. » L'abbé Monin, lui, un prêtre sérieux, qui dit « Sur le coup de minuit, ils étaient dans le presbytère, nous voilà tous réveillés. » C'était un presbytère où les prêtres de la région s'étaient réunis. Faut lire ça dans la vie du curé d'Ars. Alors, tous les prêtres, dit, nous voilà tous réveillés en sursaut par un horrible fracas. La cure est sans dessus dessous. Les portes battent. Les vitres frissonnent. Les murs chancellent. De sinistres craquements font craindre qu'ils ne s'écroulent. On se précipite dans la chambre du Saint-Prêtre, qui du fond de son lit répond tranquillement, « Allez vous coucher, il n'y a rien à craindre. » On se rassure, le bruit cesse. La maison est depuis près d'une heure revenue dans la paix, quand se produit l'événement qui, après ses chambards, deviendra habituel. Un paysan sonne à la porte. Il a parcouru plusieurs lieux en pleine ténèbre pour se confesser au pauvre curé d'Ars. Voilà l'enjeu, ce qui explique tous ces harcèlements divers et variés. Faut croire que le démon n'aime pas le confessionnal. Le démon n'aime pas qu'une âme se purifie. Se réunissent dans la grâce à Dieu. Avec un sens admirable de ce qui peut survenir, comme pour contrebalancer la présence terrible du grappin, comme il l'appelle, c'est l'heure qu'il choisit pour développer sa paroisse, par cette toute autre présence et l'adoration perpétuelle à laquelle il ne cesse de penser. Et le 1er décembre 1824, il instaure une confrérie du Saint-Sacrement. À partir de 1844, 20 ans plus tard, l'abbé Vianney devient véritablement le curé des images d'Épinal. Une gravure, vous savez, les images d'Épinal, vous connaissez ça, hein, ces gravures du siècle dernier, du milieu du siècle, très simples, très colorées. Alors, une gravure éditée, le représentant entouré d'un rappel de ces deux fameux miracles, la guérison d'un boiteux et celle d'un enfant muet, suivi d'autres images qui sont diffusées aussitôt des milliers d'exemplaires. Et c'est ainsi que le pauvre curé d'Ars entre dans ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'il appelle lui-même, son carnaval. Alors on assiste au déploiement de toutes sortes de charismes innombrables exercés par l'abbé Vianney. Et les œuvres de Dieu qui voient le jour à la paroisse d'Ars prennent un essor que l'on n'aurait jamais soupçonné. Au début, il y avait personne qui pratiquait. Ces catéchismes que certains taxaient de trop affectifs, trop sentimentaux peut-être, trop émouvants. Il faut pas être émouvant, il faut être sec quand on annonce l'Évangile selon certains. Il faut pas y mettre son cœur, parce qu'y mettre son cœur, ça veut dire qu'on est un comédien. Quel drame! Alors ces catéchismes deviennent aussi célèbres que ces sermons. Ils y expriment avec plus de liberté tout son amour pour l'Eucharistie, pour le Saint-Sacrement, pour ce miracle, ben oui, c'est un miracle sans cesse renouvelé de la présence réelle de Jésus hostie à chaque messe. Se rend-on compte que c'est un miracle? On l'oublie. On est tellement aveugle, moi le premier, il faut se secouer, car à chaque messe renouvelle le miracle de l'incarnation. Dieu se faisant homme, Dieu se faisant pain. C'est la source de toutes ses journées au curé d'Ars, de toute sa vie. Le reste, toutes ses activités ne sont que le débordement de ce cœur à cœur. Il écrit « quelle joie avaient les apôtres après la résurrection de voir le maître qu'ils avaient tant aimé. » Eh bien, le prêtre doit avoir la même joie en voyant notre Seigneur qu'il tient dans ses mains. Et nous aussi, quand on reçoit le corps du Christ dans notre main, nous devons avoir la même joie en voyant notre Seigneur au creux de notre main qui devient un trône Ah, c'est ce que dit le Saint-Curé dans les premiers temps de son séjour à Ars. Ah, si je pouvais distribuer tous les jours le très saint corps du Sauveur à un grand nombre de fidèles, que je serais heureux. Et sa prière est largement exaucée. Une anecdote très savoureuse nous montre combien les efforts du curé d'Ars ne furent pas vains pour ramener ses paroissiens à cette rencontre personnelle avec leur Sauveur et à être de véritables adorateurs. Un homme, tous les matins, laissait son champ pour passer de longs moments à l'église, planté devant ses sacrements. On connaît cette histoire, hein? Un jour, intrigué, son voisin est venu l'y rejoindre pour lui demander « Mais que fais-tu là si longtemps? » Et l'homme lui répond « J'avise le bon Dieu et le bon Dieu m'avise. Que de fois ma mère m'a raconté cette histoire. Hein? » Je me souviens d'aller à l'église Sainte-Madeleine à Outremont avec elle, puis elle faisait ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est dur quand on a 6 ans. Qu'on attend. J'avise le bon Dieu et le bon Dieu m'avise. Profondeur de la contemplation dans la simplicité de cet échange de regards. Et le curé d'Ars, rapportant la chose, conclut « Voilà tout, mes enfants. Voilà, tout est là. » Grand est également son amour pour la Sainte Vierge. Le premier cadeau qu'enfant il reçoit de sa mère, c'est une statue en bois de la Sainte Vierge. Il l'amenait alors partout avec lui, et quand sur la fin de sa vie on lui parle de la mère de Dieu, il répond « Ah, je l'ai aimée avec... avant même de la connaître. C'est ma plus vieille affection. » Et dès les débuts de d'Ardilly, avec l'abbé Ballet, vous vous souvenez, le prêtre qui l'a amené au sacerdoce. Ce prêtre, comme il y en a tant qui amènent des gens au sacerdoce, la vocation au sacerdoce, elle vient presque toujours du cœur d'un prêtre. Et donc, dans les débuts de d'Ardilly, avec l'abbé Ballet, il compose un chapelet de l'Immaculée Conception. Parce que le dogme n'est pas promulgué encore, il organise des pèlerinages à Notre-Dame de Fourvière. Il fait construire une nouvelle chapelle à la Sainte Vierge qui élargit à droite l'église d'Ars. Ce qu'il propose à tous, c'est de prier, mais non pas seulement seul à seul, seul avec Dieu, mais ensemble. Aussi, alors il y a prière du soir et chapelet qui sont mis en place. Et bientôt, le 23 février 1820, est érigée une confrérie du rosaire, au sein de laquelle tant d'âmes vont rencontrer le Christ. Le 1er mai 1836, 16 ans plus tard, c'est la consécration de la paroisse entière à Marie Immaculée, et c'est plusieurs années avant la définition du dogme. Un cœur de métal suspendu au cou de la statue enferme le nom de tous les habitants. Le curé d'Ars est réputé pour sa clairvoyance surnaturelle. Vous savez, ses pressentiments, là, ses prophéties, on est au courant, ça, ses intuitions. Il avait une aptitude à lire dans les cœurs, puis à donner bien souvent comme il disait, en tapant droit au but, dans une concision étonnante, la réponse attendue, avant même que la question ne soit formulée, même, ça lui arrivait. On n'a que l'embarras du choix devant la multitude des exemples. On appelle ça, vous savez, comme dans les vieux textes franciscains, des Fioretti. On peut en rapporter, je pourrais vous faire des émissions qui dureraient des heures. Puis son regard, et combien touché simplement par le fait de croiser son regard. Combien de gens ont été bouleversés. Combien de gens se sont précipités alors pour aller se confesser. Parce que c'était une rencontre décisive avec la tendresse puis la vérité de notre Seigneur. Le regard du curé d'Ars. C'est très attendrissant, de voir comment le curé d'Ars, dans son humilité profonde, il attribue tous ses miracles, toutes ses conversions, à la prière d'une sainte qui est disparue, sainte Philomène, parce qu'il avait instauré puis développé le culte en élevant une chapelle à son honneur en 1837. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la belle œuvre qu'a été la maison de la Providence. Je salue en passant les sœurs de la Providence qui m'écoutent. Une maison qu'il a appelée La Providence et qu'il a fondée en 1827 et qui abritait toutes celles qui n'avaient plus de toit ni de quoi manger. Une sœur grise qui fait ça à Montréal, la Maison Grise, ça s'appelle. C'était des filles de mauvaise vie comme on disait alors, qui manquait surtout d'amour. Et la famille Vianney, depuis plusieurs générations, avait l'habitude d'héberger ceux qui faisaient la route, là. Ils avaient eu la grâce de loger comme ça Saint-Benoît-Labre, dont je vous ai parlé un peu l'autre jour, en vous parlant d'Anne-Marie Taïdji. Le curé d'Ars veut constituer une petite famille où la grâce de Dieu, la grâce d'en haut, comme il disait, se manifeste avec force. Et c'est en effet un prodige qui arrive tous les jours. On n'y vit de rien. Une grande pauvreté, une grande rigueur, mais le bonheur du royaume de Dieu est bien présent. Tant, dit-il, que rien ne manque à ceux qui n'ont rien. Il répétait les paroles de Saint Jean de la Croix, quoi. Tant que rien ne manque à ceux qui n'ont rien. Et la première collecte, la première collecte de la Providence se résume à un sac de pommes de terre, mais Dieu pourvoit. C'est l'abbé Monin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui raconte un jour qu'il n'y avait plus une seule réserve de nourriture, ni un centime dans la maison. Le bon curé d'Ars a cru que Dieu l'abandonnait à cause de ses péchés. Monsieur Vianney dit, le cœur bien gros, il nous faudra donc renvoyer nos enfants puisque nous ne savons plus où prendre pour les nourrir. Et avant de venir à cette extrémité, il a voulu encore visiter son grenier. Il y monte lentement, il ouvre la porte et le grenier comble. Multiplication de la nourriture comme au temps de Jésus-Christ dans la multiplication des pains. Vous direz que c'est pas vrai, et moi je vous dis que c'est vrai, les témoins sont là. Cessons de s'imaginer que ce que le Christ a fait, c'est des histoires, et que les miracles n'existent plus. Mais non, le grenier comble, alors le curé d'Ars court à ses orphelines pour leur annoncer la bonne nouvelle. « Je m'étais défié de la Providence, dit-il, mes pauvres petites, je voulais vous renvoyer, et le bon Dieu m'a bien puni. » C'était sa façon de dire ce miracle du blé, hein, illustre, malgré les tourments intérieurs, avec quel degré d'abandon vit le curé d'Ars. Et à sa suite, Catherine Lassagne aussi, et celle qui s'occupe de la Providence. Mais s'il n'hésite pas à vivre dans une grande austérité, rien n'est trop beau pour le Seigneur. Alors, outre la restauration de l'église d'Ars, ce qu'il appelle faire le ménage du bon Dieu, pour laquelle il mendie plus d'une fois aux notables du pays puis à ses connaissances, il n'hésite pas à se dépouiller parfois même du nécessaire pour acquérir des objets de valeur. Alors il achète un soleil d'argent doré, un tabernacle en cuivre doré, un dais pour les processions. C'est un pur paradoxe évangélique, n'est-ce pas? Et quand les caisses arrivent, le bon père, avant d'en mettre prudemment le contenu sous clé au presbytère pour éviter les vols, il les fait ouvrir sur la place du village, puis il appelle les vieilles du pays, dit « Tenez, ma mère, venez voir de belles choses avant de mourir. Venez voir de belles choses avant de mourir. » Ah, le curé d'Ars devient ce vieillard, au cœur si simple et si docile, puisque plus rien ne lui appartient, ni la paroisse qui est désormais entre les mains de son prêtre auxiliaire, l'abbé Raymond, venu mettre de l'ordre dans ces lieux, et le curé d'Ars est très soumis envers ce prêtre qui est un peu indélicat, et ce qui va scandaliser plus d'un paroissien. Et puis, il se fait enlever d'ailleurs l'autorité sur la Providence, cette maison à laquelle il est si attaché, et vers la fin de sa vie, il confesse à son évêque, il lui confie, « Aimez bien vos prêtres, aimez bien vos prêtres. » Il disait ça à son évêque. Le curé d'Ars a donc reçu en confession son évêque et lui dit, il lui rappelle, « Aimez bien vos prêtres, aimez bien vos prêtres. » Et sur son invitation, on peut confier, je pense, aux prières du curé d'Ars, le saint patron des prêtres. On peut lui confier tous nos prêtres, qui sont les fils de prédilection de la Sainte Vierge, plutôt qu'un regard de jugement sur eux. Il me semble que si on se mettait tout à coup, tous ensemble, à voir à quel combat nos prêtres sont exposés, comme le curé d'Ars, si on s'intéressait à savoir, dans ces temps difficiles de décadence, l'immense grâce qui découle du ministère de nos prêtres en chacune de nos paroisses par la présence des sacrements, l'Eucharistie, ce don infini de l'amour de Dieu qui passe par la bouche et les mains du prêtre. Le sacrement de pénitence, les baptêmes, les mariages que nous nous accordons mais qu'il bénisse, l'extrême onction. Leur bonté est très souvent immense. Il faut avoir recours également à l'intercession de ce saint curé d'Ars pour vivre dès à présent de la joie du royaume de Dieu. Lui, le curé d'Ars, qui entretenait dans un monde glacial un enthousiasme continuel. Nous sommes nous-mêmes dans un monde glacial maintenant. Il faut être enthousiaste quand même et passionné. Il faut lui demander le courage de se laisser dépouiller par l'Esprit-Saint, de se mettre sans cesse à nu devant la vérité de l'amour. Qui alors, cet amour se précipitera pour faire en nous des merveilles. Dieu nous recouvrira de son immense miséricorde. L'abbé Vianney déclarait aussi « Je ressemble à un porc-épic qui se roule à terre pour ramasser des pommes. Moi, je me roule à terre pour ramasser des âmes. » Quel homme simple pour exprimer les plus belles choses. La soif des âmes, la soif des âmes. Je recevais hier une lettre bouleversante d'un ami qui me disait qu'il voulait se consacrer à ça. Sauver les âmes. Un laïc. Demandons-lui au curé d'Ars, par ses prières, déguiser en nous cette soif, qui est la soif même de Jésus, qui s'offre pour nous dans un immense amour au cœur miséricordieux de son Père. Car notre vocation n'est-elle pas de vivre du royaume et pour le royaume? Pour cet embrasement de l'Esprit-Saint, c'est ça le royaume. Dans cette compassion sans cesse grandissante pour chacun des gens que nous voyons, dans un don inconditionnel de soi, même s'il n'y a aucune reconnaissance, aucune appréciation, aucun où il n'y a rien que le silence, afin que tous puissent enfin rencontrer dans le Seigneur le vrai bonheur. C'est le curé d'Ars qui disait, pour être un saint, il faut avoir perdu la tête. Pour être un saint, il faut avoir perdu la tête. C'est une de ces phrases lapidaires du curé d'Ars. Il est vrai que ce saint, c'est celui qui va jusqu'au bout de l'amour, c'est-à-dire jusqu'au don total de soi, à son Dieu, dans le service des autres, jusqu'à sa mort le 4 août 1859. Jean-Marie Vianney a raison, il faut avoir perdu la tête, il faut être uniquement cœur, cœur, cœur. La tête apporte trop de raisons de se ménager. On se dit, oh, vous êtes en fait trop, vous allez vous fatiguer. Et puis après, toutes sortes de raisons pour se ménager, pour prendre sa retraite, ne rien faire, ne pas aller jusqu'au bout du don de soi. On veut bien être un peu poire, comme on dit, mais pas trop, pas trop. Faut pas en faire trop. N'en faites pas trop. Et comment? Lui, il a perdu la tête, puis il va jusqu'au bout de l'amour. Et au fait, le curé d'Ars, dans cette affirmation, ne fait que rejoindre Jésus, dont on a dit un jour, c'est l'évangéliste qui nous le rapporte, il a perdu la tête. Pensez-vous proclamer les béatitudes que c'est raisonnable? Est-ce que Jésus n'avait pas perdu la tête ce jour-là? Heureux les pauvres, heureux les petits, heureux ceux qui prennent sur eux la souffrance des autres, heureux ceux qui pardonnent, heureux les persécutés pour la justice. Faut avoir perdu la tête, me semble, pour dire des choses comme ça. Faut avoir perdu la tête pour réunir ses amis, puis prendre un morceau de pain, puis leur dire, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Ah, oh, doux Jésus. Pour être un saint, il faut avoir trouvé le cœur de Dieu. Dieu est amour. L'amour, ça se mesure pas. Dieu n'accompagne pas les hommes avec une règle, un maître, puis son compas. Dieu, c'est celui qui donne sans mesure. Il se donne sans mesure, il donne l'Esprit Saint sans mesure, qui est l'amour. L'Esprit n'est qu'amour, c'est-à-dire don de soi, et Dieu donne l'Esprit d'amour. Certains l'accueillent sans restriction, comme le curé d'Ars. Ceux-là ne sont plus qu'amour. Ils ont perdu la tête. Tous les saints en sont là, chacun à sa manière. Car il n'y a qu'un seul esprit de sainteté qui distribue une multitude de dons et de charismes pour la construction de cette grande église qui est la nôtre, le corps du Christ, composé de femmes et d'hommes, d'autant plus juste, paisible et épanoui qu'ils se donnent sans compter au service de leurs frères. Pour être un saint, il faut avoir perdu la tête, et c'est juste. Pas étonnant que le curé d'Ars ait dit cela. Puisqu'il a dit aussi, « Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont des idées justes. » Et encore, « Oh, que l'on voit bien, et que l'on voit beau, quand on voit par le Saint-Esprit. » Il a écrit de bien belles prières, le curé d'Ars. « Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. » Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon divin Sauveur, parce que vous avez été crucifié pour moi. Je vous aime, ô mon Dieu, parce que vous me tenez ici-bas crucifié pour vous. Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime. Ô mon Dieu, à proportion que je m'approche de ma fin, faites-moi la grâce d'augmenter mon amour.